Avignon a compté pour vous et qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous y êtes, vous revenez?
Je crois que d'abord, quand on nous propose de venir au Festival d'Avignon, on ne refuse pas trop, parce que ce sont des dates, parce que c'est un lieu où d'autres, beaucoup d'autres artistes sont, parce qu'il y a un public qui vient nombreux. Donc je crois que si on m'avait proposé avant encore de revenir, je ne crois pas que j'aurais refusé non plus. Donc ça me semble très logique de revenir aujourd'hui ici. Je pense que quand on m'a proposé au début, dans les années 80, avec Imène au cloître des Carmes, de présenter une création, là c'était quand même quelque chose de très très important. Et évidemment, il y a l'affaire de la reconnaissance toujours qui vient se mettre en travers. C'est toujours impressionnant, oui, voilà, on peut dire ça. Aujourd'hui, ça m'impressionne encore autant, mais je ne sais pas si c'est le fait d'être à Avignon ou c'est plutôt le fait d'être à Avignon avec une création. C'est ça qui est impressionnant. Ce serait une reprise, je serais beaucoup plus tranquille.
Alors justement, dans le programme que vous avez peut-être vu, il est indiqué comme titre provisoire Création 2009, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de titre jusqu'au... On s'est vu avec Maggie Marin il y a deux, trois mois pour faire les entretiens qui sont dans le programme ou dans le dossier de presse, et à ce moment-là, il n'y avait pas encore de titre. Est-ce que vous pouvez nous donner un titre?
À cette époque-là, il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas grand-chose, à vrai dire. Donc, arriver à nommer quelque chose qui n'existe pas encore, c'est toujours un peu compliqué. Parfois, ça peut, mais souvent, ça vient pendant qu'on est en train de le fabriquer. Donc, cette création s'appelle « Description d'un combat ». Et c'est très récent, il y a peut-être une quinzaine de jours où ce titre m'a semblé adéquat pour ce travail.
Donc... Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce processus de création, justement, qui fait que jusqu'à quelques semaines avant la première là, d'une création, vous ne savez pas encore exactement ce qu'il y aura, vous ne pouvez pas donner de titre. C'est un processus de création qui, à la fois, je pense, est partagé par des artistes, mais qui, en même temps, peut-être que vous menez encore plus loin. En tout cas, qui résiste à cette pression constante des programmateurs, de nommer, quand on fait un programme, effectivement, on a besoin d'un titre. Donc, plusieurs mois à l'avance, parfois plusieurs années, on essaye de tirer des plans de carrière, des titres. Et vous essayez quand même de résister à ça.
En fait, j'aimerais bien pouvoir répondre, à vrai dire, puisque je trouve que les gens font leur travail aussi. Donc, j'aimerais bien arriver à donner un titre et à des textes à l'avance pour que tout le monde soit rassuré d'une certaine façon, mais je n'y arrive pas. Et peut-être qu'il y a quelques années, ou beaucoup d'années peut-être, je racontais n'importe quoi pour m'en sortir, et puis tant pis si ça tombait pile ou pas. Après, on revoyait un petit peu ce qu'on avait dit 4 mois auparavant ou 6 mois auparavant. Mais là... ça m'embête un petit peu, quoi, de raconter n'importe quoi alors que je ne sais pas encore comment ça va se déterminer au fur et à mesure du travail. Donc, ça dépend. Peut-être quand je fais un travail sur Beckett, par exemple, sur le texte Cap au Pire, là, on peut dire, voilà, ça, ce sera un travail, une création qui va se baser sur ce texte-là. Et donc, ça donne matière à pouvoir écrire dessus, ça donne un titre. Mais dans ce cas-là précis, et la plupart du temps d'ailleurs, dans la mesure où je ne m'appuie pas forcément sur quelque chose de textuel dès le départ, parce que le texte peut venir, et il y en a dans cette création, mais il vient après, du coup, je veux bien essayer de suivre, comme on piste un animal en fait, ce qui se passe au fur et à mesure du travail avec les interprètes, au fur et à mesure des jours qui passent, et parfois c'est très long, ça ne veut pas surgir, rien ne surgit. Donc c'est un peu angoissant quand même de, d'être dans ce... Enfin, je trouve normal en fait cette, ce processus. Simplement que c'est vrai qu'il y a une pression extérieure qui fait que on doit donner des choses et ce, cette confrontation elle est un peu pénible.
Et qu'est-ce, quel est le, l'élément, je dirais, le premier élément déclencheur, c'est de choisir les interprètes. Est-ce que c'est à ce moment-là que commence à se dessiner quelque chose?
Non, parce que les interprètes, je les connais tous et j'ai déjà travaillé avec eux. Donc l'équipe est constituée déjà, c'est la seule chose dont je suis sûre, à vrai dire, que ce sont ces personnes-là avec lesquelles je vais travailler.
Donc le Centre chorégraphique national de Rieux-Lapin.
Voilà. Donc sur cette question-là, il n'y a pas de, de distribution. C'est l'équipe avec laquelle je travaille en général et depuis quelques années, parfois très longtemps. Donc ça, c'est plutôt... je sais comment on va travailler ensemble, ça oui. Après, ce qu'on va faire, à part cette relation-là, c'est le travail qui le construit au fur et à mesure.
Et quel est ce type de travail? Vous faites ensemble des exercices, vous faites des lectures, vous montrez des choses. Comment s'élabore justement ce processus de création?
D'abord, il y a une mise en travail, on peut dire, oui, qui s'appuie sur des exercices rythmiques, qui s'appuie sur des écoutes musicales, qui s'appuie sur des lectures de textes, qui s'appuie sur des mises en espace, sur des relations de duo, de donc un tas de propositions comme ça qui n'ont pas d'objet de finalité en fait, mais qui sont juste une mise en rapport avec une possible autre matière que celle avec laquelle on travaille, on a travaillé la dernière fois. Ou bien retrouver aussi c'est quoi qui fonde le travail aussi. Donc parce qu'il y a parfois des personnes qui sont plus récentes, des gens qui sont là depuis 2 ans par exemple et qui quand on sent encore qu'il y aurait un travail à mener ensemble pour que le fondement du travail soit vraiment ressenti. Donc il y a tout ce travail de, je dirais plutôt un travail de rythme. À partir du corps, à partir de la voix, à partir du collectif et du particulier, enfin toutes ces questions-là, je crois qu'on commence par ça et on y reste très longtemps sur cette question avant d'aborder vraiment, ce n'est jamais définitif au départ, voilà, on essaye des choses et de ces choses qui sont essayées, beaucoup sont jetées. Elle fédère quand même quelque chose, pour moi, de fondamental entre qu'est-ce qu'on est en train de faire là ensemble, parce que je crois que c'est ça la question quand même. Et petit à petit, des choses se dégagent, un texte persiste, un mouvement persiste, quelque chose petit à petit se construit à partir comme si on tamisait des choses.
Et à peu près, à combien de temps avant la première, la création, est-ce que ce phénomène de tamis comme ça se prend fin et vous pouvez ensuite travailler sur les choses qui seront effectivement sur le plateau?
Je pense un mois avant.
Oui, donc relativement récemment.
Oui, enfin, on a travaillé 2 mois entiers, j'allais dire gratuitement, ça veut dire sans avoir posé une seule pierre. Et puis, mais ce sont des pierres invisibles qui se posent hein, en même temps. On ne peut pas dire que c'est pas, ça ne sert à rien. Au contraire, ça fonde vraiment des choses. Mais après, je pense qu'un mois avant la première, on commence à déterminer, à poser, à écrire vraiment et à composer les choses comme elles finissent par être.
Et c'est un moment qui est plutôt exaltant ou plutôt frustrant, parce que c'est un moment aussi où vous éliminez beaucoup de choses. Comment est-ce que vous vous sentez ce dernier mois? Quelle est l'ambiance, par exemple, dans la compagnie, sur le plateau, à ce moment-là?
L'urgence, à un moment donné, fait qu'on ne se pose plus trop les questions qu'on s'est posées pendant 2 mois. Il faut y aller, quoi. Et donc, on y va et un peu sans... On fait confiance un peu à ce qui s'est passé auparavant et on...
Vous plonger.
On doit choisir, ouais. Voilà. On doit choisir et donc on choisit et les choix qu'on fait les uns après les autres déterminent quelque chose. Au milieu, on se dit c'est peut-être fausse route, tant pis. Voyons voir comment on peut faire moins pire que fausse route. Et on essaye. Enfin, pour moi, c'est comme ça, je crois. On n'est jamais très content en fait de ce qu'on fait, je crois. Parce qu'on voudrait toujours mieux, mais à la fois, c'est comment, pourquoi est-ce que ce choix-là a été fait en fait ? Il y a quand même, c'est pas, ça sort pas de n'importe où. Donc, c'est rendre la chose, trouver une forme la plus adéquate possible, la moins pire, je dirais, pour donner une forme à ce qui s'est passé pendant ces deux mois-là. Ces deux mois-là étant aussi influencés et traversés par tout ce qu'on traverse tous les jours aussi, par la vie, par les situations. Donc c'est ça en fait qui, à un moment donné, il y a des choix qui sont faits et qui déterminent que la pièce, elle nécessite, c'est-à-dire que c'est elle qui demande à un moment donné quelque chose. Jusqu'à un certain moment, c'est nous qui apportons. Et puis à un certain moment donné, quand des choix se précipitent, c'est elle qui demande ou qui évacue certaines choses.
Alors, description d'un combat, c'est aussi un piège de donner un titre, puisqu'on vous demande immédiatement pourquoi ce titre ? Je ne vais pas échapper à cette question rituelle.
Je savais qu'on allait me poser cette question. D'abord parce que... Enfin, il y a plusieurs raisons. Il n'y a jamais une seule. C'est assez complexe, à vrai dire. Je crois que lisant étant déjà dans le travail avancé, puisque le titre fait seulement 15 jours qu'on a décidé de ce titre-là, lisant un texte de Kafka qui s'appelle « Description d'un combat », qui parle d'une question autour du futur et du passé et de la position qu'on occupe dans le présent, comme on est en lutte avec les questions du passé et du futur, ça m'a semblé être complètement en adéquation avec le travail qu'on était en train de fabriquer depuis deux mois. Aussi parce que c'était un combat, cette pièce, comme chaque pièce d'ailleurs, mais peut-être celle-ci encore plus évidente. C'est compliqué à dire. J'ai senti une sorte d'appel, on peut dire, pour ce titre-là.
Et c'est une pièce qui porte par ce titre et en elle-même une certaine violence.
Oui, je pense, oui. Il y a un combat à différents niveaux. Il y a un combat au niveau de la forme parce qu'elle est difficile. Un combat parce que quand on décrit quelque chose, on n'est pas dedans, on est à l'extérieur, mais à la fois on est sur le plateau en représentation. Donc comment est-ce qu'on parle de ça, de la guerre par exemple, quand on est sur un plateau en train de jouer, est-ce qu'on joue, comment est-ce qu'on décrit, est-ce qu'on s'incarne là-dedans, enfin toutes ces ambiguïtés-là ont été traversées par chacun des acteurs et par moi-même aussi. Donc trouver le ton juste pour décrire quand même un gâchis, puisque au bout du compte, on parle de la guerre et de la mémoire et de l'oubli. Et voilà, tout le travail a été de pouvoir trouver une forme qui soit... Je ne sais pas comment dire. C'est très difficile de parler de la souffrance et des corps et des morts. Donc comment est-ce qu'on s'y prend avec ça quand on fait une œuvre d'art? C'est très compliqué.
Et est-ce que le combat, la guerre a une dimension aussi d'actualité, de rapport à l'aujourd'hui fort?
Je crois que j'ai vraiment le sentiment, ça c'est aussi une sensation personnelle, mais je crois qu'elle est partagée par beaucoup de monde, beaucoup de gens. On a l'impression qu'on vit dans une époque quand même d'oubli, qu'il y a énormément de gâchis. Moi, je suis fille de réfugiés espagnols, donc qui ont donné énormément de leur vie pour d'autres sont morts, donc qui ont vécu l'exil, comme beaucoup d'autres personnes qui se sont engagées dans des conflits dans leur pays ou pour des questions de justice et de liberté. Et on a l'impression qu'il y a un gâchis terrible de ces corps qui ont sacrifié leur vie courte, qu'on marche comme ça sur des corps avec une sorte d'indifférence parce qu'on s'adapte aux choses et que comme une transmission qui se serait pas complètement faite. Donc pour moi, ça c'est des questions qui sont très très présentes, enfin que je ressens vraiment. Qu'est-ce que je fais de cette expérience vécue des parents, en fait, des anciens? Comment est-ce que je la transmets à mes propres enfants? Qu'est-ce qu'on en fait dans les études, dans l'éducation? Qu'est-ce qui se passe dans cette transmission? Je suis assez atterrée, en fait, de voir comment les voix sont oubliées très vite. En fait, il y a un discours majoritaire, on apprend l'histoire à l'école, mais en fait, c'est toujours l'histoire des vainqueurs, la plupart du temps, et les voix souterraines, celles qui se sont battues, sont enfouies. Donc, j'avais envie de travailler là-dessus.
C'est quelque chose qu'on va beaucoup... C'est pas étonnant d'ailleurs retrouver dans le festival cette année la guerre, aussi bien des pièces de Wajdi et Mouawad comme Incendie ou le spectacle d'Amos Gitaï d'après la guerre des Juifs ou d'autres encore. Il va y en avoir beaucoup. C'est vous inscrivez dans ce festival. J'imagine que c'est pas volontaire. Il se trouve que. Mais qu'est-ce que ça vous inspire cette concordance des combats, je dirais pour.
Ben, je pense qu'il y a une forte urgence à faire ressurgir des paroles, des voix qui sont de plus en plus étouffées, en fait. Je ressens ça comme ça, et de dire le sacrifice, de dire de ne pas être amnésique. Parce je pense que si ça ressort de cette façon-là, c'est qu'il y a une sorte de sensation, de sentiment général dans la société, d'amnésie. Ou alors on se sert du passé, mais pour asseoir son pouvoir. On ressort des phrases et des expériences comme pour faire encore plus oubli, pour les tordre et faire qu'elles deviennent utiles à une certaine façon d'envisager la communauté, les relations humaines. Donc pour asseoir quelque chose qui... pour ligoter d'une certaine façon, parce que ça la banalise finalement, ça banalise ces choses-là. Enfin.
Peut-être qu'il y a des questions à Maggie Marin. Oui.
Je sais pas si je suis très claire.
Attendez, il y a un micro qui arrive.
Oups.
Bonjour. Quels sont les arguments pour faire les gens visiter votre spectacle?
Quels sont les arguments?
Oui. Quelle raison devrait visiter votre spectacle?
La curiosité. La curiosité, par exemple.
Ah non, on peut. Il faut avoir plus de substance là-dessus. Je pense, du moins.
Je n'ai pas d'argument. Je ne fais pas du commerce, monsieur. Je ne suis pas obligée de vous dire comment c'est beau et comment c'est ceci et comment c'est cela. Vous êtes à Avignon, il y a des tas de spectacles, il y a des artistes qui présentent du travail. Si vous êtes curieux, vous êtes là, peut-être parce que vous êtes curieux. Venez voir et puis ensuite vous verrez. Je ne vais pas vous faire l'article.
Une autre question, non? Non. Bien, je remercie donc Maggie Marin. Description d'un combat au gymnase Aubanel du 8 au 16 juillet à 18h. Je signale aussi la diffusion sur Arte d'un documentaire sur votre travail et votre carrière. Maggie Marin, la danse cachée, le lundi 13 juillet à 22h35. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. Au revoir.
Donc, nous allons avoir le plaisir d'accueillir Stéphanie Jaspin et Denis Marlot. Bonjour, nous avons le plaisir de vous accueillir pour le travail que vous allez présenter au Tinel de la Chartreuse, qui est une pièce de Thomas Bernhardt, une fête pour Boris. Avec Maggie Marin, vous avez au moins un point commun, puisque vous avez commencé à peu près votre carrière dans les mêmes années, c'est-à-dire les années 80. Donc on ne va pas vous présenter vraiment, Denis Marlot, 27 ans de Compagnie Ubu, une quarantaine de spectacles, à la fois spectacles, disons, de pièces très classiques et des pièces très contemporaines, un parcours comme ça à travers l'univers du théâtre. Simplement parler de certaines qui sont venues déjà à Avignon parce que quelque chose crée un lien entre le travail que vous avez déjà fait ici et ce que vous présentez cette fois. En particulier pour les fidèles du Festival d'Avignon, ceux qui ont eu la chance d'y venir depuis de nombreuses années, en 1996, vous avez présenté Maîtres anciens de Thomas Bernhardt, qui fut un des gros succès du festival et ensuite qui a tourné pendant plusieurs années en France, en Europe, dans votre pays, le Canada, le Québec. Et puis ensuite, Nathan le Sage, le Petit Cochel aussi, vous avez présenté. Et en 2002, Les Aveugles de Maeterlinck. Ce n'est pas tout à fait un hasard si je parle de ces deux-là plus particulièrement, parce qu'en effet, vous revenez avec Une fête pour Boris à Thomas Bernhardt. On dit de cette pièce que c'est la première pièce de Thomas Bernhardt, Une fête pour Boris. En fait, il y avait une première chose qu'il avait écrite avant qui s'appelle La montagne, je crois, dont on parlera peut-être pas en deux secondes. Alors pourquoi, après, Maîtres anciens n'est pas une pièce de théâtre, c'est un roman que vous avez adapté. Pourquoi revenir à Thomas Bernhardt?
D'abord, je ne connaissais pas l'existence de cette pièce. Il y a deux ans, je suis tombé par hasard sur le texte Une fête pour Boris. Et le texte avait été traduit par Claude Porcel. Il était édité chez L'Arche. Et c'est en faisant des recherches, tout simplement, sur le site internet de La Colline, que je suis tombé sur la connaissance de ce texte, l'existence de ce texte. Et puis, je suis allé voir, parce que c'était quelque chose qui m'intéressait. Il était question de 13 Kudjat dans un troisième tableau qui était reçu par une bonne dame, elle-même Kudjat, pour célébrer l'anniversaire de son mari, lui-même Kudjat. Il y avait quelque chose d'assez risible et de très, je dirais, caustique dans cette première ébauche, dans ce scénario du texte. Et ça m'a intrigué, je suis allé voir. Il y avait aussi quelque chose d'assez représentable, donc un vrai, peut-être, défi lancé au metteur en scène qui aime sortir aussi peut-être des... En fait, qui aime trouver, sortir des conventions, en fait. Le théâtre de Bernhardt m'a plus ou moins intéressé jusqu'alors. J'avais commencé à travailler. Le premier texte que j'ai travaillé à proprement parler, c'était un récit, Maîtres anciens. Donc, en allant voir le premier texte fondateur de sa dramaturgie, je me suis dit, tiens, comment ça fonctionne? Est-ce que tout est là? Et j'étais très surpris de voir qu'au fond, tous les thèmes qu'on retrouve dans l'œuvre de Thomas Bernhardt, autant sa prose que sa dramaturgie, s'y retrouvent. Cette langue infinie qui fonctionne en spirale, c'est cette manière de travailler le monologue face au personnage silencieux qui accompagne cette espèce de pensée verbale sans, qui fonctionne sans interruption. Alors, je pense que ça, c'est ce qui m'a interpellé. Il y avait aussi le fait que je sortais aussi d'une série de travaux avec une actrice en particulier, Christiane Pasquier, qui, et à la lecture du texte, j'ai eu tout de suite cette espèce de vision qu'un metteur en scène peut avoir et qui est très importante dans le travail théâtral, c'est de conjuguer tout de suite un haut personnage, souvent un acteur, une comédienne, et Christiane me semblait tout à fait l'interprète idéale pour jouer cette bonne dame. Alors voilà, ça s'est passé tout simplement comme ça.
Alors, souvent, c'est en effet, vous l'avez esquissé, souvent on considère que, enfin on a pu considérer que dans les premières pièces des grands auteurs dramatiques, des grands poètes du drame théâtral, souvent les premières pièces en effet étaient des espèces de condensés comme ça de problématiques qui vont se développer par la suite. On peut penser à Tchekhov avec Platonov, on peut penser pour la France à Bernard-Marie Coltès avec Salinger, il y a déjà tout. Parfois là où il y a un petit problème, c'est qu'il y a parfois un peu trop, entre guillemets. C'est-à-dire que, comme ce sont des jeunes auteurs, bien entendu, les choses sont très très chargées. Est-ce que vous avez ce sentiment avec Une fête pour Boris, ou est-ce qu'on a déjà quelque chose de très maîtrisé?
Moi, j'ai l'impression que c'est absolument maîtrisé. C'est un texte qui est fait par quelqu'un qui connaît bien le théâtre, les rouages du théâtre. Alors, il y a une chose aussi qui est peut-être importante de rappeler, c'est que Thomas Bernhardt a étudié le théâtre. On pense souvent à la musique, mais c'est l'art dramatique qu'il a étudié. À la lecture du texte et dans le travail, dans tout le processus, on s'est rendu compte que ce qui était proposé, ce que Bernhardt donnait à lire était extrêmement structuré. Il y avait une ossature, il y avait une structure qui extrêmement complexe, musicale, et qui certainement, de toute façon, est un peu sous influence. On ressent un peu Beckett avec ce personnage entravé de la bonne dame. Et on pense aux Beckett de fin de partie, on va penser aussi à Jean Genet, particulièrement les bonnes, avec le motif des chapeaux, avec celui des gants, et de la relation sadique, et de la projection. Je pense que c'est un texte extrêmement fort qu'on ne peut pas établir nécessairement comme un texte de débutant. En tout cas.
Oui. Alors, il y a une question souvent avec Thomas Bernhardt aussi. Il m'a semblé parfois que les metteurs en scène qui prenaient en charge Thomas Bernhardt confondaient un petit peu deux choses. Les personnages sont des personnages qui ont des obsessions permanentes, récurrentes dans tous les textes. Très, très souvent, ces personnages disent, redisent, re-redisent, reprennent, voilà. Mais confondait souvent parfois obsession et bavardage. C'est-à-dire qu'on avait l'impression d'une logorée sans fin. Et je me disais quand je lisais le texte, en fait, il y a des rythmes de parole et des rythmes de silence. Mm-hmm. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a aussi intéressé dans Une fête pour Boris?
Je pense qu'il y a des rythmes, comme vous dites. Il y a vraiment des rythmes qui font que parfois la pensée va se distiller dans des ralentis ou dans des, et il va y avoir des accélérations prodigieuses, des accélérations qui confinent presque au burlesque, au grotesque. Je pense que c'est une des pièces les plus drôles de Thomas Bernhardt. Elle n'a pas peut-être la gravité des dernières œuvres. Et ça, c'est aussi quelque chose qui m'a intéressé dans cette œuvre. Tu pourrais peut-être ajouter aussi.
Oui, ben, à la différence du bavardage aussi, c'est toujours cette naissance spontanée du langage, de la pensée, ouais, au fur et à mesure qui ne cesse de se réactiver. Donc, les répétitions se modifient, se transforment, opèrent des métamorphoses et nous amènent toujours ailleurs et surprennent même le personnage. Et en ce sens-là, c'est important que l'acteur se laisse surprendre lui-même. On a l'impression, en tout cas, que ça naît au moment où ça se dit. Et
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, en effet, la répétition n'est jamais la répétition exacte.
Non.
C'est-à-dire
jamais.
qu'on commence sur un rythme de phrase et, en effet, le personnage semble tout d'un coup partir, revenir d'ailleurs effrayé par moments de là où il se retrouve par sa parole et puis il revient.
C'est un inachèvement de la pensée aussi.
Ouais.
C'est que ça n'arrive jamais à se finir.
Ouais.
Donc, ça se transforme.
Ouais.
Donc, c'est un échec aussi, d'une certaine façon, ouais. parce que ça mène toujours ailleurs, ouais. mais ça ne mène pas nécessairement dans quelque chose qui va conforter le personnage. Il va lui donner une arrivée.
Un des thèmes qu'on retrouve, bien sûr, et qu'on retrouvera dans beaucoup de pièces de Thomas Bernhard, c'est la maladie, ou en tous les cas, le handicap physique et la maladie. Thomas Bernhard avait une espèce d'ironie, comme ça, il avait été un des rares... il avait été malade et il était allé dans un sanatorium, et il était à peu près guéri de sa maladie, sauf qu'au sanatorium, il attrape la tuberculose, ce qui est quand même une chose assez... assez étrange d'attraper la tuberculose dans un lieu où, en principe, on la soigne. Et donc, ce rapport à la maladie, comme ça, ou au handicap, là, vraiment, et dans Une fête pour Boris, c'est un des éléments essentiels de la pièce, à travers ce monde de Kudjat.
Oui, c'est qu'il confère aussi une dimension statique, en apparence statique, parce que chez Bernhard, c'est le langage qui est toujours en mouvement. Alors donc... oui, c'est un personnage entravé, celui de la bonne dame, comme celui de tous ces Kudjat qui apparaissent au troisième tableau, qui vient aussi jouer en contrepoint celui ou celle qui a des jambes, qui est la servante, mais qui est le personnage qui ne parle pas, qui est le personnage silencieux qui doit absorber les mouvements de la pensée vertigineux de la bonne dame qui parle sans arrêt et qui parfois verse dans le bavardage et dans cette espèce de compulsion verbale, mais qui raconte aussi quelque chose qui avance toujours, je dirais, en spirale comme ça. C'est-à-dire que c'est ce qui est assez fascinant chez Bernhard dans son écriture, c'est que il part d'un thème qu'il va quitter et qu'il ramassera un tout petit peu plus loin. Et ça avance, on a l'impression que ça avance en plusieurs vecteurs à la fois. Et c'est ça la difficulté pour l'interprète, c'est-à-dire ça ne cesse de ramasser, je dirais, de la mousse verbale, de la mousse de pensée, de la mousse de comme une pierre qui amasse, qui tourne dans tous les sens à la fois. C'est une image pour expliquer aussi la difficulté, parce que pour le travail de mémoire, pour l'interprète bernardien, c'est vraiment toujours un grand défi, hein, de pouvoir avancer tout en modulant, en donnant à entendre, malgré la répétition ou l'apparence de répétition, quelque chose de nouveau dans l'art de dire, dans l'art de parler le texte, de le vivre tout simplement.
Mais pour en revenir à votre question sur le sanatorium, ce qui est intéressant chez Thomas Bernhard aussi, c'est qu'une des premières images fortes de ces malades qui étaient avec des vieux dans ces sanatoriums très, très, très malades et très branchés un peu partout. Et il a associé cette image-là à l'image de la marionnette déjà à l'époque. Donc de l'être qui est sous perfusion et qui est manipulé et tenu en vie de façon extérieure par des fils très, très ténus. Et dans cette pièce, ben, il exacerbe cette incapacité d'agir. Il marionnettise presque ses personnages, puisque même la mort devient impossible, le suicide devient impossible. On voit chez les Kudjat à la fin, c'est comme une idée souterraine qui, à travers leur récrimination, surgit toujours, celle du suicide. Et ils sont incapables d'y arriver, de le faire. C'est assez prégnant dans cette pièce-là aussi, cette idée du personnage complètement marionnettisé et incapable d'agir.
Oui, alors justement, là, c'est une chose assez importante parce que dans votre spectacle, donc, il y a des comédiens en chair et en os, et il y a en effet, à un moment, des marionnettes qui arrivent. Alors bien sûr, si vous voulez, on parle beaucoup de coups de théâtre, souvent au théâtre. Ce sont souvent des coups de théâtre qui sont des coups de théâtre de dialogue ou de situation. Donc, il y a un coup de théâtre dans votre spectacle. Il est évident qu'on ne va pas vous le dire et on ne va pas vous révéler quel est ce coup de théâtre, parce que moi j'ai eu la chance de le voir, et je crois qu'il faut garder ça totalement secret pour que les spectateurs aient ce bonheur-là de découvrir à un moment sur un plateau de théâtre quelque chose qui fait que vous êtes en état un peu de frémissement, comme ça, de spectateur, parce que vous ne vous y attendez pas et quelque chose arrive et ça vous amène dans un autre univers, ailleurs. Simplement, donc, c'est un choix que vous avez fait de travailler sur l'idée de marionnette pour cette pièce.
Oui, mais j'avais été frappé aussi par l'intérêt de Bernhard pour le masque, pour l'effigie. On voit ça dans Minetti avec le masque d'Ensor, mais il y a aussi une première tentative d'écriture dramatique, oui. La montagne, qui porte le sous-titre une pièce pour des êtres humains en forme de marionnettes ou de marionnettes en forme d'êtres humains, en apparence oui. d'humain. Oui. Et ça m'avait beaucoup intéressé. Et on retrouve aussi dans d'autres pièces comme les célèbres, hein, l'utilisation de la marionnette. Alors donc, c'était aussi l'idée que dans le texte d'une fête pour Boris, l'idée d'une ambiance ou la présence de l'enfance est très importante chez cette bonne dame. Elle fait porter le masque de cochon à sa femme, sa servante, et c'est ce qui nous a autorisé aussi donc à développer tout ce travail sur le redoublement, la duplication aussi d'une figure en d'autres effigies, et ça va jusqu'à, je dirais, ce cœur de personnage qui a un statut, je dirais, une existence très particulière sur le plateau.
Mais il y a, c'est très connu pour Antoine Vitesse, qui avait pour la marionnette une admiration totale et absolue. D'ailleurs, le festival, cette année, à différents endroits, retrouvera justement ce travail sur la marionnette. Je signale comme ça très vite qu'il y a à la Maison Jean Villard une exposition sur un très grand metteur en scène qui a renouvelé l'art de la mise en scène, qui est Gordon Craig. Donc il y a cette exposition, et d'ailleurs ça donnera lieu à une lecture à la Maison Jean Villard par Denis Lavant de textes sur la marionnette. Et puis on recevra très bientôt Jean-Louis Ekel pour l'École nationale de la marionnette, puisque vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais il y a une École nationale de la marionnette en France à Charleville-Mézières, et il y a un travail qui est présenté par les élèves de cette école ici demain à 16h30 et 19h30 aux ateliers ISTH. Donc la marionnette en effet est quelque chose qui traverse le théâtre. On pourrait citer comme ça beaucoup de metteurs en scène qui s'y sont énormément intéressés. Il y a aussi quelque chose une fête pour Boris, qui est qu'on retrouvera d'ailleurs dans d'autres pièces de Thomas Bernhard, c'est le travestissement. Pas obligatoirement le travestissement homme-femme avec cette ambiguïté un peu qu'on retrouve chez Shakespeare, mais par exemple la bonne dame entre guillemets débute en se travestissant en princesse. Non, il y a d'autres.
En fait, chaque tableau, la pièce est en trois tableaux, donne une espèce de degré de théâtralité progressif, si on peut dire. Et dès le début, cette scène de chapeau où la bonne dame essaie constamment des gants et des chapeaux, c'est comme si, en fait, le principe de son identité était peut-être le seul assez clair de la pièce, puisqu'elle parle, c'est elle qui. Et que tout autour d'elle, c'était des projections de ce qu'elle envoie, de ce qu'elle crée aussi. Donc les échelles peuvent être tronquées, les identités peuvent être flottantes et se transformer, par exemple avec Johanna. Mais même la bonne dame, avec cette façon d'essayer des chapeaux, de constamment changer fugitivement d'image comme ça, elle organise déjà une sorte de théâtre d'elle-même, en fait. Elle dit « je me joue moi-même chaque soir ». Tout n'est constamment que répétition de répétition. Et ça nous a frappé, parce qu'on s'est dit, en fait, c'est cette solitude extrême de cette femme qui, peut-être comme une grande enfant perdue, organise un monde, une espèce de rituel funèbre répété chaque soir où sa pulsion de mort peut s'exorciser, parce qu'elle-même fuit toujours la question de la mort ou du suicide, mais par les autres, par des figures soit monstrueuses d'elle-même ou muettes d'elle-même, tout ce qu'elle peut projeter en Boris, cet être un peu informe et silencieux, et en Johanna, qui contient une opacité un peu mystérieuse, ben, tout ça est une espèce de projection d'un rapport au monde très, très, très complexe, très...
Oui, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est fascinant, qu'on retrouve, je pense, dans d'autres pièces de Thomas Bernhard, c'est qu'on est à la fois dans une espèce de cérémonial de théâtre, mm-hmm. qui est aussi un cérémonial funèbre, parce que quand même, je veux dire, même sans révéler la fin de la pièce, mais je veux dire, on sent bien dès le début qu'on va vers quelque chose qui touche directement au tragique, et aussi un espèce de cérémonial de carnaval, c'est-à-dire que c'est sur le plateau du théâtre. Ce qui m'a frappé quand j'ai vu votre travail, c'était le... très souvent, la bonne dame dit à sa bonne, remettez-moi à ma place. C'est-à-dire qu'en fait, elle revient à une place précise, exactement comme une actrice qui se déplace, qui revient, parce que à ce moment-là de son travail sur le plateau, elle doit être à une place précise pour pouvoir dire un certain texte. Alors ça, c'est très beau de la façon dont vous l'avez fait, bien entendu. Donc je trouve ça vraiment très fort. Alors, il y a aussi le personnage, oui, de la bonne dame, parce qu'elle est à la fois dans la maladie, mais c'est aussi une dame très riche et qui, entre guillemets, comme on disait à une certaine époque, fait la charité. Des exégètes de Thomas Bernhard ont pensé que c'était, par rapport à un personnage qu'il avait vraiment connu, c'était une partie de sa vie aussi, parce qu'il a été très aidé, je crois, par une de ses tantes, ou je ne sais plus exactement son lien familial, à quelqu'un avec qui il avait des rapports comme ça aussi de dominant-dominé assez fort.
Oui, oui, en fait, on surnommait cette dame la tante. Il n'y avait aucun lien de parenté entre elle et Bernhard. Mais c'est vrai qu'elle a été celle qui a soutenu Bernhard dans son projet d'écriture, qui lui a donné des moyens assez substantiels pour exister au tout début de sa carrière d'écrivain. Il y avait aussi, on a beaucoup raconté, il y a toutes sortes de choses qu'on a racontées sur des épisodes de leur relation et je pense qu'elle est un peu dans le personnage de la servante, un peu de Johanna, un peu dans la bonne dame, elle est un peu partout, comme Bernhard aussi, est présent à travers tous ces personnages. C'est aussi une critique féroce de ce monde de la bienfaisance que Bernhard dénonce et qui, je pense, l'a beaucoup aussi concerné quand il était enfant, puisqu'il était un orphelin qui a donc sa mère l'a envoyé chez son grand-père. Son grand-père l'a envoyé ensuite dans un pensionnat. Il a vécu aussi des périodes de maladie ou de grande fragilité où il recevait l'extrême onction parce qu'on lui trouvait une pleurésie très vive à l'âge de 8 ou 9 ans. Donc il est marqué par toutes ces conditions d'existence reléguées à la maladie, à celle du personnage qui est en difficulté physique.
Mais c'est vrai que dans ce couple impossible, qu'à la fois la bonne dame forme avec Boris, mais avec Johanna aussi, c'est un peu aussi le miroir de ce couple impossible qu'il formait avec cette femme-là, parce que finalement, il a vécu avec elle plus qu'avec personne d'autre. Et c'est un rapport très complexe, fait à la fois d'humiliation et de complicité totale, parce qu'elle l'aidait à la fois à s'habiller, à acheter ses chaussures, à écrire. Donc on voit ça à la bonne dame qui dit à Boris, je t'ai fait commander un costume pour la fête. Mais ça passe comme ça par... c'est insaisissable là aussi, parce que comme dit Denis, ça se promène à la fois... dans chaque personnage, et parce que cette compulsion d'écrire chez la bonne dame est aussi celle de Thomas Bernhard, qui ne peut s'empêcher d'écrire des lettres, qui ne peut s'empêcher de lire les journaux. Son seul rapport au monde, c'est les journaux. Donc ce qui est intéressant chez lui, c'est que tous ces rhizomes autobiographiques se synthétisent et se condensent en plusieurs personnages. Mais c'est vrai qu'apparemment, dans une première version, il avait donné le nom de la tante à la bonne dame. Oui. Oui, donc c'est quand même une...
Oui, c'est-à-dire
d'origine, un théâtre d'origine, si on veut.
C'est-à-dire que ce qui est assez fascinant, c'est ce rapport de détestation et en même temps d'impossibilité de sortir de la détestation, sinon, entre guillemets, on peut en mourir. Si on prend, je pense que vous connaissez, la pièce s'appelle Heidenplatz, de ce professeur juif qui a vécu dans une Autriche antisémite absolument extrêmement violente, et qui, le jour où enfin il a la possibilité de sortir de cet antisémitisme et de cette Autriche qui l'a détruit, qui a détruit sa fin, peut partir en Angleterre, se suicide parce qu'il y a quelque chose qui n'est plus possible aussi en dehors de l'Autriche, qui était, je crois, un peu le cas de Thomas Bernhard, de ce lien qu'il avait avec ce pays, assez fascinant quand même, faisant interdire par testament ses pièces en Autriche pendant 50 ans,
absolument,
après sa mort.
Oui, je pense que l'un des grands principes de cette écriture, c'est celui de l'exagération. C'est tout doit passer par l'exagération. Le langage, au fond, fonctionne comme une accumulation de lentilles grossissantes. La répétition, elle est là pour faire grandir un trait de caractère, un défaut, quelque chose que Bernhard aime justement fouiller. Et c'est de cette façon que la répétition fonctionne.
Alors, moi j'avais une dernière question. Vous savez, notre temps est un peu limité. C'était sur votre travail en tant que metteur en scène de théâtre. On a le sentiment qu'au théâtre, vous associez un certain nombre d'autres arts, et en particulier tout le travail sur les nouvelles technologies, sur la musique, sur des arts visuels. Pour vous, c'est une nécessité absolue pour le théâtre aujourd'hui de s'associer à ces autres arts?
Je ne sais pas. C'est une nécessité pour le théâtre de s'associer, mais pour moi, c'est essentiel. C'est tout. C'est tout ce que je peux dire. Je travaille depuis des années en me laissant ouvert à des pratiques, en ouvrant sur des pratiques justement transversales, soit de la sculpture, où j'ai moi-même invité des plasticiens à venir s'inscrire à l'intérieur de mes productions. Je pense à Michel Goulet, à Pierre Granche, qui est un sculpteur montréalais. J'ai invité aussi des musiciens de musique contemporaine. Pour moi, c'est une façon de ne pas... En fait, quand j'ai travaillé sur une fête pour Boris, j'ai eu l'impression de travailler plus que comme un sculpteur que comme un metteur en scène, d'une certaine manière. C'est-à-dire que avec Stéphanie, on a développé un espace qui est très loin de l'espace réaliste, celui auquel on est plutôt habitué à voir sur scène les œuvres de Bernhard. Et on a trouvé des solutions qui sont des solutions aussi plastiques pour mettre en jeu ces états de présence qui sont liés fondamentalement au texte de Bernhard, à cette manière de projeter la représentation de l'autre dans un espace, dans un cadre théâtral.
Très bien. Donc, je ne sais pas si... Bien sûr, c'est toujours très compliqué dans les conférences de presse pour les questions avant, puisque vous n'avez pas eu la chance que j'ai eue de voir déjà le spectacle. Donc, je ne sais pas, mais s'il y avait une question sur le travail de Denis Marlowe, avant de dire que vous pourrez d'ailleurs retrouver Denis Marlowe le 14 juillet à 11h30, dans le dialogue qu'il entretiendra avec le public à l'École d'Art. Je voulais vous dire aussi que le 10 juillet, ici, dans ce lieu, entre 15h et 18h, aura lieu une rencontre autour du théâtre contemporain québécois, de ses auteurs et je pense aussi de ses metteurs en scène. Donc vous aurez vraiment loisir de revenir au théâtre de Denis Marlowe plusieurs fois pendant ce festival. Merci beaucoup. Merci. Stéphanie Jasmin, merci beaucoup Denis Marlowe. Zad Moultaka et Roland Erabedian.
Bonjour. Oh, bah, comme vous voulez. Bonjour.
C'est pas grave, ils sont fermés.
Ah, c'est pour nous,
d'accord. Oui, c'est pour vous, si vous voulez. Oui, bien sûr. Et vous avez un verre et tout. J'avais pas trop osé les mettre
sur
la table parce que c'était un peu moche. Bonjour. Avec vous, nous accueillons pour la première fois des artistes qui ne viennent pas essentiellement du monde du théâtre, mais du monde de la musique. Donc c'est un grand plaisir de vous accueillir. Nous avons parlé avec Maggie Marin de ce festival à l'intérieur duquel la guerre est visiblement très très présente. Ça sera aussi, je pense, le cas avec vous. Simplement, peut-être, je ne sais pas si vous avez déjà participé au Festival d'Avignon, peut-être que ça serait bien de vous présenter un tout petit peu. Zane Moutaka, vous êtes Libanais. Vous avez, alors, c'est très intéressant dans votre parcours, vous me corrigez si je commets des erreurs, vous avez commencé des études très classiques au Conservatoire de Beyrouth, puis ensuite au Conservatoire de Paris, avec ce qu'on pourrait appeler pour nous, Français, de la musique très classique, occidentale. Et ensuite, il y a eu comme une rupture, ou en tous les cas, un autre chemin que vous avez parcouru, en revenant à la musique que nous considérons, nous, ici en France, comme celle de votre pays, la musique orientale du Liban. Vous pouvez, comme ça, un peu retracer votre parcours?
Oui, en fait, effectivement, j'ai commencé conservatoire de Beyrouth, puis j'ai suivi tout un cursus, en fait, de musique dite occidentale, entre guillemets, pour créer comme ça des catégories. Et en fait, à un moment donné, j'ai senti le besoin de questionner quelque chose qui est rapport avec ma culture d'origine, entre guillemets, parce que je suis vraiment de double culture, puisque je viens du Liban, et que j'avais besoin de questionner l'espace de la musique arabe, c'est-à-dire l'espace des modes, les couleurs, les instruments, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé une démarche de compositeur. Je peux pas dire que ça soit dans la musique orientale. C'est en fait j'ai choisi comme mode d'expression ce qu'on appelle la musique d'aujourd'hui, la musique contemporaine, c'est-à-dire avec le langage contemporain, mais à l'intérieur duquel il y a énormément d'éléments qui proviennent de la musique orientale, comme des modes, comme des sonorités, comme des voilà, qui sont à l'intérieur de...
Mais alors, de ce double parcours, quand vous êtes devenu compositeur, est-ce que votre désir était d'essayer de mêler d'une façon douce et calme la musique occidentale et la musique orientale, ou est-ce qu'au contraire, votre désir était de quelque chose d'un peu de provocation entre l'une et l'autre des formes?
En fait, je ne crois pas trop dans l'attitude forcée de vouloir mêler ou être dans la subversion ou être dans le... Ce que je cherchais surtout, c'était... Enfin, je me rendais compte que j'étais fait d'énormément de choses, pas seulement finalement de deux cultures, mais de plein de cultures. Comme nous tous d'ailleurs, parce qu'on est dans un monde quand même qui s'ouvre, qui est complètement ouvert, et il y a énormément de choses qui transitent, qui circulent. Et le désir, c'était surtout de trouver un espace intérieur qui puisse en fait recoller les morceaux qui sont à l'intérieur de moi-même, puisque je suis fait de plusieurs choses. Donc trouver un espace dans lequel je puisse questionner tous ces morceaux qui font partie de moi et qui... donc après, ça devient un chemin plutôt... Enfin, j'essaie que ce soit un chemin naturel, que ce ne soit pas quelque chose d'artificiel. Si je vais à un moment donné vers un mode oriental, ce n'est pas parce qu'il faut mettre de l'Orient dans la musique, mais c'est qu'à un moment donné, ça devient quelque chose d'essentiel et une nécessité profonde. Donc en fait, j'essaie d'être le plus possible à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et de travailler avec ça.
Alors, je disais, votre travail là que vous allez présenter, qui s'appelle L'autre rive, est un travail qui est très lié, alors par contre, visiblement, à la situation du Liban, à la guerre. Comment vous est venu ce désir, cette idée, et quel chemin vous avez pris pour parler de ça?
En fait, quand j'étais enfant, j'étais donc à Beyrouth pendant la guerre, et souvent on entendait parler de l'ennemi qui est de l'autre côté de la frontière, qui était en fait des frontières qui étaient dans Beyrouth même. Et la frontière,
la ligne verte.
La ligne verte, voilà.
Que nous avons nous connu sous le nom de...
Exactement. Et il se trouve que la ligne verte, elle pouvait être à 20 mètres. Moi, je me rappelle pendant 15 ans. je ne pouvais pas aller à 20 mètres de chez moi parce que c'est, voilà, il y avait une espèce de... Et c'était toujours cette notion d'ennemi qui est de l'autre côté. Et c'est, le danger est de l'autre côté. Et l'autre côté, en fait, il se trouve que l'autre côté changeait à chaque fois. Parce qu'à un moment donné, les gens se battaient dans le côté dans lequel aussi j'étais. Donc l'ennemi changeait tout le temps de visage. Et à un moment donné, je me suis dit, mais si j'étais né de l'autre côté, j'aurais pu entendre exactement le même discours de ce côté-là, et l'ennemi aurait juste changé de lieu. Donc je me suis rendu compte de la futilité de c'est-à-dire, on se bat pourquoi en fait, c'est quoi le... Et cette idée-là, j'ai vécu avec ça pendant des années. Et elle est arrivée là, enfin, elle a mûri avec cette œuvre-là où, voilà, c'était le moment de travailler là-dessus. C'est pour ça, en fait, c'est une œuvre donc avec 12 chanteurs, avec musique à 13 et deux instrumentistes. Et ça se passe dans deux lieux en même temps. Et les musiciens partent pendant l'œuvre d'un espace vers un autre espace. Et l'œuvre se passe à l'envers, avec un texte qui passe à l'envers, qui, pour aller très vite, qui va d'un texte belliqueux qui est scandé par 12 chanteurs et qui va petit à petit aller vers la solitude du dernier chanteur, voire sa disparition. Donc d'un côté on va aller d'un groupe belliqueux vers la solitude de l'être, et de l'autre côté on va aller de la solitude de l'être vers le groupe belliqueux. Il y a quelque chose qui fonctionne comme ça à l'envers.
Oui, c'est ça. Le texte, c'est vous qui l'avez écrit ?
Oui, je l'ai
écrit. Oui. C'est-à-dire, justement, le texte, au début, apparaît comme quelque chose qui sont un peu des slogans, en effet, très collectifs de ce qu'on a pu entendre. Ce qui m'a frappé quand j'ai lu le texte, c'était que c'était quelque chose qu'on entendait. On peut penser que c'est que ce sont des slogans d'aujourd'hui. Puis tout d'un coup, on entend, au détour des formules, quelque chose qui appartient et qui a appartenu à beaucoup de guerres, en particulier sur le... Dieu est avec nous, Dieu nous aide, Dieu nous... Ça, je pense qu'en France, nous l'avons déjà entendu pour plusieurs guerres, où Dieu a été utilisé comme ça. Et puis, en effet, on passe au regard de l'individu par rapport à cette situation-là et à son drame. Donc, vous avez fait... en effet, il y aura à l'intérieur, parce que vous êtes à la Chartreuse, il y aura un passage comme ça, un déplacement à la fois des musiciens, mais aussi du public.
Oui, en fait, oui. Au départ, ce sont les musiciens qui se déplacent. Le public, à l'entracte, il change de lieu. C'est-à-dire, il vit la même expérience, plus ou moins, mais dans l'autre lieu. Donc, c'est une expérience pareille, mais qui n'est pas pareille. Puisque en plus, ce n'est pas la même langue. C'est dans deux langues différentes. Et puis, l'instrumentarium n'est pas le même non plus. Donc, l'univers n'est pas le même, mais en même temps, c'est le même. Il y a une espèce de... quelque chose qui est pareil, mais pas pareil.
Quand on est dans le premier lieu, on continue à percevoir ce qui se passe dans le second ? Oui ?
Alors, justement, j'ai travaillé avec l'idée de porosité. C'est ça qui permet aussi l'espace de la Chartreuse, puisque c'est entre l'église et le cloître. Et donc, l'idée, c'était de garder cette porosité-là et de travailler de sorte à ce que quand on est dans un lieu, on puisse percevoir à peu près de ce qui se passe de l'autre côté, de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté ? Et d'être tout le temps dans cette tension-là. On a commencé hier à travailler dans les lieux. Pour l'instant, ça fonctionne. On va voir ce soir, en fait, avec la générale, comment ça marche, effectivement.
Effectivement, oui. Mais alors, est-ce que vous, en plus d'être compositeur, d'avoir écrit, est-ce que là, tout d'un coup, vous vous sentez un peu metteur en scène de quelque chose qui est plus que simplement la présentation d'une œuvre musicale?
En fait, je ne sais pas si on peut dire metteur en scène. En tout cas, il y avait une réflexion sur la forme. C'est-à-dire, j'avais besoin de réfléchir sur la forme musicale. Et donc, du coup, je me suis retrouvé, oui, dans une forme, effectivement, qui est proche d'une... peut-être, entre guillemets, d'une forme théâtrale. En tout cas, plus peut-être d'un espace de rituel. Parce que l'espace du rituel m'intéresse beaucoup dans les déplacements, il y a quelque chose dans la gravité aussi du rituel, dans ce que ça propose comme espace d'énergie de groupe. Voilà, donc est-ce qu'on peut dire mise en scène, je ne sais pas.
Oui, mais j'ai vu dans votre biographie que vous aviez écrit des partitions musicales pour des spectacles de théâtre.
Oui, il y a quelques années. Oui, j'ai travaillé avec Nabil et Lazan, puis avec plusieurs metteurs en scène. Et en fait, je viens d'une famille de metteurs en scène, parce que mes parents sont, sont dans le théâtre. Ah oui. Et j'ai hérité quand même de, d'un rapport à cet espace-là. Et j'ai vécu, étant enfant, dans les coulisses. Et donc, voilà, donc...
Ah oui, il y a des voilà. antécédents
sérieux.
Alors, donc, Roland Hérabédian, alors, je pense que ici, un certain nombre, à Avignon en tous les cas, un certain nombre de gens vous connaissent, puisque vous avez créé un ensemble qui s'appelle Musique à 13, qui est installé à Marseille. Vous pouvez nous préciser un petit peu votre parcours et comment est né cet ensemble ?
Oh, bien, cet ensemble est né de l'envie de faire naître des musiques, hein, tout simplement. Donc, il y a plus de 20 ans maintenant, donc c'est un ensemble qui a fait plus de, je sais pas, une bonne centaine de créations. Donc, voilà, quoi, c'est un ensemble qui n'est pas qu'un ensemble de chanteurs, c'est aussi un ensemble d'instrumentistes et qui se forme en fonction de la nécessité musicale. C'est-à-dire que si Zad écrit une pièce pour 12 chanteurs et 4 instrumentistes, et bien il y a 12 chanteurs et 4 instrumentistes. Mais demain, s'il écrit pour des instrumentistes seuls, il n'y aura que des instrumentistes, et peut-être un chanteur ou deux chanteurs, je ne sais pas. Voilà, c'est comme ça, ça marche. Mais c'est vrai qu'il y a un noyau de chanteurs de 12 et qui fait que dans cet ensemble, il y a une couleur particulière, enfin, voilà, qui est un... Et on est très passionné par la création, mais pas seulement.
Mais alors, justement, votre rencontre avec Zad Moutaka, ça s'est passé comment ?
Alors, il se trouve que j'avais demandé à Zad de venir à Marseille pour une sorte de résidence dans laquelle il a proposé quelque chose, enfin... qui était quelque chose déjà d'induit, puisqu'il devait venir sur plusieurs concerts et faire une œuvre à partir d'écritures qui étaient faites dans des ateliers par le public. C'est-à-dire le public nourrissait le compositeur de textes, en fait. Donc Zad a complètement fonctionné avec ça, sauf qu'il nous a fait une surprise incroyable, c'est que la première fois, on fait la première chose... qui a duré 4 minutes dans le premier concert, puis 2 mois plus tard il avait un nouveau texte et j'ai eu la surprise de me rendre compte que ce nouveau texte devait se superposer à une bande qui avait été sauvagement prise par, sans que je le sache, par le compositeur lui-même. Et si vous voulez, il a travaillé sur des strates. Et le troisième concert, il y avait la bande du concert d'avant, donc les gens réentendaient le concert d'avant mais superposé, hein, et ainsi de suite jusqu'au quatrième concert, et ça a donné une œuvre assez formidable. Et là encore, on avait tout à fait d'abord la notion de la mémoire qu'on retrouve, hein, dans l'autre rive. Je crois qu'il y a ça tout le temps présent chez Zad Moutaka, c'est-à-dire à la fois l'idée de la mort et puis l'idée de la mémoire, sans doute la mémoire de celui qui a pu échapper à la mort, hein. Et ça, moi, ça m'a beaucoup, beaucoup touché aussi. Et donc, on a recommandé une autre pièce à Zad ensuite. Et puis, je dis Nannerie, non. Non, oui, Artefa, c'est ça. Qui est une pièce qui est assez proche. C'est une espèce de ballon d'essai pour la pièce qu'on va donner demain en première. Et donc, qui était complètement en arabe cette fois-ci. Et puis demain, il y a cette pièce qui est assez formidable, enfin, qui est vraiment un rituel assez, assez incroyable.
Mais alors, ce qui fait une des particularités de votre travail, justement, on en parlait juste avant avec Denis Marlot sur le fait d'être dans le théâtre et d'associer au théâtre d'autres formes artistiques. Visiblement, dans votre travail aussi, vous avez travaillé avec le théâtre, avec la danse, avec les arts plastiques. Il y a aussi pour vous cette nécessité absolue aujourd'hui de ça ?
Pour moi, c'est naturel. Enfin, je n'imagine pas que on puisse faire de la musique sans poésie et sans. Donc, je vois pas comment faire autrement. Donc, moi, je peux pas diriger, par exemple, un orchestre qui me demanderait de faire des valses de Strauss. J'y arrive pas. C'est pas possible. J'ai besoin de quelque chose d'un peu plus qui soit plus fort pour moi, et je peux pas le faire. Donc, je fais ce qui me paraît. Ce qui me nourrit, moi, personnellement, voilà.
Et par rapport au théâtre, qu'est-ce que vous avez Alors, qu'est-ce que vous avez partagé avec le théâtre ?
Avec le théâtre, d'abord, Musique à 13 est l'initiative. J'ai commandé 7 contes à 7 compositeurs qui sont mis en scène. Donc, on a fait un conte autour du compositeur Bruno Mantovani, chaque fois avec des compositeurs différents. L'année prochaine, un des contes sera donné au Festival d'Aix, avec un metteur en scène qui est aussi chorégraphe. Donc vous voyez, il y a une nécessité comme ça d'être confronté à la scène, mais c'est pas du tout, il n'y a aucun narcissisme, c'est pas du tout pour cette raison-là. C'est l'intérêt simplement de mêler effectivement l'art plastique, puisque dans ces contes particulièrement, il y a des livres qui sont sortis systématiquement chez Actes Sud avec des illustrations faites par quelqu'un qui va aider d'une certaine façon la scénographie, et puis un disque, et puis le conte en lui-même, qui est lui-même écrit par quelqu'un d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est parce que quand on rencontre des compositeurs, on rencontre forcément des gens de théâtre, forcément les choses ne sont pas cloisonnées. Il arrive qu'en musique les choses soient très cloisonnées, mais en théâtre aussi. C'est-à-dire que je crois, mais moi j'ai pas envie de ça, voilà. Et je cherche pas le décloisonnement.
Oui, c'est comme un ça, mouvement c'est naturel.
Naturel.
Alors pour en venir au texte que vous avez écrit, le texte sera chanté en français, en arabe.
En fait, il est chanté en arabe qui n'est pas vraiment de l'arabe et en grec qui n'est pas vraiment du grec. En fait, c'est deux. Ce sont deux langues inventées, en fait, mais avec des sonorités. Voilà.
Oui. Et donc, parce que les chanteurs que vous avez donc dans votre groupe, c'est, pour eux, chanter, c'est une question alors vraiment très, très personnelle et très bête, mais chanter en arabe est aussi aisé que de chanter dans les langues.
Les chanteurs, ils ont vraiment l'habitude de oui, ça. Oui, ils chantent en allemand, en italien, en grec. On a même fait du rossa. C'est une langue d'Afrique du Sud.
Ouais. Alors, en fait, on va aussi voir un autre travail de vous avec un travail qui s'appelle « Non ». C'est ça. Alors, qui est une chose très différente. Je pense qu'on en reparlera parce qu'on va recevoir ensuite l'interprète, Yalda Younes, voilà, qui reviendra. Alors là, on est dans quelque chose de complètement différent puisque c'est lié à l'Espagne, au flamenco un peu, puisque c'est ce que j'ai lu sur le programme pour Zapateado et diffusion électroacoustique. Zapateado est en effet un moment de danse flamenco, enfin un travail très précis sur le pied, je crois, et sur le talon, enfin tout ce qu'on peut faire avec ça. Est-ce que c'est autour d'un hommage à Samir Kassir, je pense que peu de gens peut-être connaissent ici, qui, il se trouve que moi j'en avais entendu parler, puisqu'il était universitaire historien, il avait travaillé en France et il était en plus revenu au Liban. Il a été assassiné le 2 juin 2005. Vous pouvez dire à peu près pourquoi ce travail ?
Oui, en fait,
travail.
Donc, quand c'était une période d'assassinat en série à Beyrouth, et quand Samir Kassir s'est fait assassiner, il y avait une atteinte à la liberté de la presse, puisque c'était un journaliste, mais la liberté, c'est un endroit où c'est très difficile, quoi, d'accepter de toucher à cet endroit-là. On était tous vraiment choqués par cette disparition et par la violence de ce que ça disait par rapport à l'état du Liban, tout ça. Et donc j'ai senti qu'il fallait faire quelque chose, en tout cas pour moi, pour que je puisse moi aussi faire le deuil de cette chose-là sans faire le deuil, enfin dans le sens d'exprimer quelque chose. Le fait de travailler avec Yalda, donc, que je connaissais, qui est une danseuse magnifique. En fait, l'histoire de la danse espagnole, c'est pas loin du tout. Par exemple, Non est très très proche de ce qu'on va donner demain. C'est vraiment extrêmement proche. C'est même presque parce qu'il y a le côté rituel, parce qu'il y a aussi une réappropriation de la langue du Zapateado. C'est-à-dire que, en fait, pour moi, le fait de taper par terre, c'est de dire non. C'est vraiment créer quelque chose pour dire non. Je tape pour dire non. Et en même temps, ce qui est intéressant dans cette danse, c'est tout le côté percussif, des pas, donc qui fait que qu'on retrouve d'ailleurs dans une danse libanaise et puis du bassin méditerranéen qu'on appelle la dabke, qui est aussi cette fois-ci une danse de groupe qui tape tous par terre et ça crée des et en fait pour moi dans mon imaginaire c'était plutôt cette dabke qui était réappropriée et j'ai travaillé sur une bande son de 1975, d'une nuit de guerre que j'ai vécue donc au début de la guerre, et j'ai retrouvé l'enregistrement de cette bande son là et j'ai retravaillé les bombardements. En fait, j'ai choisi les belles bombes, c'est-à-dire les belles sonorités entre guillemets belles, bien sûr, comme une sorte de réappropriation de quelque chose que à l'époque on subissait. Mmh. Voilà. Et c'est une forme de lutte entre la danseuse et cette bande. Oui.
Nous en parlerons parce que nous allons recevoir aussi Yann Younes pour un autre travail. Simplement, ce que je voulais dire pour conclure avec vous, c'est qu'on peut aussi entendre un cycle, dans le cycle des musiques sacrées, on entendra 5 pièces de vous le 16 juillet à 19h à la collection Lambert. Voilà, bah, écoutez, je vous remercie infiniment
Merci
d'être venu nous
Merci
rejoindre. À bientôt, j'espère.
Des sujets à vif. Le programme de la SACD au rituel, je dirais, au Festival d'Avignon. Et donc, je reçois Daniel Larieux, qui va présenter un peu le projet. Jennifer Lasset, qui est chorégraphe et danseuse. Et Antonija Livingstone, performeuse. Je pense que c'est une question qu'on vous pose rituellement de présenter en quelques mots le programme Sujet à Vif, je dirais, à la fois dans son histoire et peut-être dans sa spécificité de cette année.
Allez à l'attaque. Alors, d'abord, j'ai beaucoup de plaisir à être ici cette année puisque je termine mes 3 ans de collaboration comme administrateur à la danse à la Société des auteurs. Et je rappelle que historiquement le vif du sujet a été initié du côté de la danse au début, puisque le principe c'était qu'un interprète demande à un auteur une forme courte et ces formes en fait ont été au fur et à mesure travaillées plutôt vers la pluridisciplinarité comme on dit, et la SACD aime la pluridisciplinarité. Et le grand changement qui s'est passé l'année dernière, c'est que nous sommes passés de 4 projets à 8 projets, et notamment en collaboration avec les autres administrateurs, notamment du théâtre, de la musique, du cirque, la totalité donc, des administrateurs de la SACD, s'est penché avec le Festival d'Avignon dans cette collaboration en passant de 4 à 8 projets. Donc maintenant, nous appelons ça les sujets à vif. Et cette année, donc 8 projets dont je ne sais rien, ou presque, sinon que moi j'ai beaucoup de plaisir à partager cette aventure et ces collaborations croisées, ces rencontres entre soit des auteurs, des performeurs qui viennent de toutes les disciplines et qui, dans un cadre très précieux d'une aventure artistique, se posent pour des formats de 25 à 30 minutes qui sont un peu un laboratoire pour nous et aussi pour le public. Je rappellerai simplement, parce que c'est important de le savoir, que l'argent qui vient de la SACD pour ça provient de la copie privée. Et ce sont donc des sommes qui sont prélevées sur l'achat. Quand vous achetez des supports vierges, il y a un certain nombre d'argent qui sont répartis vers les sociétés d'auteurs et qui nous permettent de participer en collaboration avec le Festival d'Avignon à ce programme. Voilà, c'est mon pitch.
Peut-être un mot sur le principe directeur depuis l'année dernière, d'ailleurs sur l'idée de la rencontre, du rapprochement parfois surprenant de deux artistes, de deux arts, de deux formes d'art. Hein. Pourquoi avoir privilégié cette idée ?
Je crois qu'on pense plus tellement des rencontres en termes de répertoire, en termes de matière spécifique. On est loin de la collaboration, qu'on va dire traditionnelle, par exemple, de la danse et de la musique, même si on pourrait y retourner. Il se trouve que les gens se parlent, il se trouve que les rapports frontaliers et interfrontaliers entre les disciplines me semblent de plus en plus pertinents parce que les savoirs s'échangent et les partages se passent. Moi, c'est dans ce sens-là que je trouve que c'est une aventure particulière d'être à l'écoute de certaines rencontres et de pouvoir simplement proposer l'opportunité à des gens d'un cadre qui n'est pas un cadre habituel, tout simplement.
Alors, aujourd'hui, nous allons parler du programme A, et plus particulièrement de culture et administration, qui est une commande passée à Antonija Livingstone. Mais il faut aussi signaler la première partie du programme A, Narcisse O, commande à Kate Strong, donc du 9 au 16 juillet, au Jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph. Antonija Livingstone, comment s'est passée cette commande? Est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le projet que vous avez illustré?
Je me présente, Antonija Livingstone, je suis artiste montréalaise et j'ai eu un appel, un téléphone de quelqu'un du Festival Avignon qui m'a invité de faire quelque chose dans le Jardin de la Vierge. Alors c'était impossible de dire non à cette invitation et avec l'opportunité de... Excuse-moi, je parle français mais pas très bien, ok, so I'm gonna
tout
try.
Tout va bien.
Oui, j'ai toujours rêvé de travailler avec deux femmes que j'ai croisées en France dans le travail de Benoît Lachambre, qui est un artiste canadien que j'ai travaillé avec. Mais j'ai travaillé avec beaucoup. Et puis Nadia Laureau et Jennifer Lacey sont les deux étoiles dans le ciel de ma vie. Et j'ai beaucoup apprécié leur travail, leur approche. Et leur approche... qui est deux femmes qui co-signent une performance, qui travaillent également dans la scénographie et chorégraphie et présence de performance dans un sens fluide et partagé. Alors de là, j'ai invité Jennifer de partager avec moi sa sagesse, sa présence, et puis on a réussi de faire quelque chose assez folle et amusante pour le Jardin de la Vierge, qui parle de quelque chose qui est proche à moi, la couture et administration. Sans avec, on n'est pas ici, au festival. Et voilà, ça c'est...
C'est-à-dire, comme on n'a pas vu le spectacle du tout, vous pouvez un petit peu préciser exactement vers quel point vous êtes allé.
Je privilège la notion d'une rencontre réelle entre deux artistes sur scène et comme j'ai une imagination vivante, j'ai considéré ce lieu, ce jardin de la Vierge comme un genre de, pour moi, un royaume d'ici maintenant. Et toutes les choses qui peuvent se passer de là sont de cette nature... qui existe entre la culture et l'administration, ou avant la culture et après l'administration. Mais je dis ça poétiquement. Hein. Et puis, on joue. On a des invités qui sont là un peu comme une corde ballet, comme les soutiens. Sur scène, nous avons 15 autres amis sur scène avec nous. C'est vrai? Non. Pas 15, 5, excuse-moi. I told you, I talk French, but not so good. We have 3. Wait a minute, I can't count either. 1, 2, 3. Ouais, il y a 15. Alors, mais c'est juste à dire que le jardin, là, c'est plein. Plein des fleurs, plein des oiseaux. Ouais.
Jennifer Lasser, oui.
Donc, quand... moi, je travaille en général pas avec une thématique prédestinée. C'est plutôt de voir où je suis avec des autres, par exemple Antonija, et puis de préciser une conversation autour de ça. Donc, la discussion entre culture et administration, bien sûr, c'était la réalité avec moi et Antonija, avec deux histoires très différentes. Mais comment faire ce qu'on a à faire? Ben c'est tout con, quoi, et pas très intéressant. On a tous le même problème dans toute la langue de notre vie en tant qu'artiste, mais c'est devenu assez pointu pour nous deux à ce moment-là. Et on n'a pas abordé directement ce sujet. Il y avait la pratique dans le studio vis-à-vis nous deux et une discussion en permanence, soit très sérieuse, soit assez ludique. Mais on était en train de lire Adorno, l'industrie du culture. On est tombé sur cet article qui précise dans une manière très poétique, en fait, la possible relation entre la normalisation de ce qui n'est pas normal pour les nécessités de l'administration. Ben voilà. Et on a trouvé ça hyper ludique. On appelle ça culture et administration. C'est génial. Donc, c'était aussi... le titre nous guide aussi avec la relation de l'objet qu'on a produit, qui est spécifique à notre rencontre avec le jardin et les spécificités d'où on est là maintenant. Et on interroge en perpétuité, qu'est-ce que ça a à voir avec ce sujet? Mais la réponse n'est pas là, ce n'est pas une explication de ce problème, c'est plutôt une manière de s'interroger aussi. Et en anglais, ça se change plus facilement. Le mot culture, ça peut être aussi un verbe, de cultiver quelque chose, de cultiver quelque chose. The culture and culture, ça peut être aussi un verbe. Et administration aussi, ça peut être d'administrer comme un médecin. Donc, comment est-ce qu'on donne, comment est-ce qu'on livre notre culture? C'est quoi cette culture qu'on livre? Un niveau très personnel et poétique. Et on essaie d'avoir ça comme une manière, un début d'un projet, comment penser ça plus largement et plus ouvertement. Mais c'est que le début.
Dans le programme, il est cité également Gertrude Stein. C'est peut-être un mot? Ou c'est un leurre, ouais, peut-être?
On explique la blague, quoi. Ben, j'ai essayé de faire une limerick qui est un genre de rime. je ne me souviens plus la rime précise parce que, en fait, les gens du festival ont essayé de préciser le français que j'ai proposé, qui n'était pas correct. Mais oui, c'est ça, que juste de donner pour les gens un peu le genre des valeurs, peut-être, qu'on partage. C'est avec Gertrude Stein comme marraine.
C'était un poème assez boulevard, quoi, au début. On avait écrit plusieurs parce qu'on dit on ne sait pas ce qu'on fait pour le texte, on va écrire un mauvais poème, mais ça finit en texte. Donc voilà.
le texte est en anglais, j'imagine, ou en...
Non. C'est en français, mais si ça semble que je parle anglais, Franglish, voilà.
Puis, on danse plutôt, pardon.
Autre chose à dire, c'est que dans le texte qu'on a proposé pour la programme qui n'est pas là, c'est, j'ai proposé que la relation entre la culture et l'administration, c'est une romance torride. Et ça, c'est qu'une filtre, une manière de regarder ce qu'on fait. De pratiquer là.
Bien, je recommande donc à notre public d'aller voir ce spectacle torride, donc culture et administration, qui est donné dans le programme A des sujets à vif avec Narcisse O, du 9 au 16 juillet à 11h au jardin de la Vierge du lycée Saint-Joseph.
On a vu aussi une répétition de Kate et ça vaut la peine. On peut recommander aussi Narciso.
Peut-être un mot sur Kate Strong.
Alors Katie Strong, c'est une actrice aujourd'hui. Elle a été très longtemps et elle est toujours. Alors comment ranger les gens? Je l'ai connue, moi, elle dansait avec William Forsythe dans les années 80, puisqu'elle a dû quitter la compagnie en 87-88 pour entrer à la Schauspielbühne de Berlin comme actrice, comme comédienne. Et là, moi, je la retrouve 20 ans après dans une proposition, toujours dans cette frontière, collaboration avec Coralie Lamaison, sur la figure de Narcisse, dans laquelle elle va jouer à la fois sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle est comme personne, ce qu'elle est comme interprète, et comment elle a été traversée, elle, par cette fameuse, je dirais, ce fameux vif pour elle comme comédienne, et ce qui la constitue aujourd'hui, au-delà d'être à la fois une danseuse ou une actrice, en fait, voilà. C'est une personne extrêmement étonnante, enfin, en tout cas, moi, pour laquelle j'ai beaucoup de plaisir à la retrouver là, voilà.
Merci. Donc, on retrouvera d'autres programmes B, C et D de sujets à vif dans les jours qui viennent et les semaines qui viennent. Jean-François,
oui.
Demain ?
Eh bien, alors, demain, nous aurons le plaisir d'accueillir d'abord Nassera Belaza. Ensuite, nous recevrons Hubert Collat pour le livre d'or de Yann, puis Christelle Lheureux, Martine Locatelli, Claude Régis, c'était une chose assez particulière parce que ça fait plusieurs dizaines d'années qu'il n'était pas venu au Festival d'Avignon. Et puis Lina Sané et Rabi Mroué et justement Yalda Younes dont nous avons commencé à parler aujourd'hui, qui viendra parler de son travail ici au Festival d'Avignon. Voilà.
Donc un riche programme et à demain. Alors,
et bonne première pour ceux qui ce soir vont au premier spectacle du 63e Festival d'Avignon à la carrière Boulbon. Merci, au revoir.